بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. شيخ الإسلام نبي commencé le tafsir de sourate at-takwir إذا الشمس كورت، et on avait étudié 6 versets jusqu'à Waïda al-Biharu, 7 versets jusqu'à Waïda al-Nufus ou Zubwijat. Et donc aujourd'hui on va voir quelques versets, 2 ou 3 ou 4 versets, et avec comme objectif de compléter les signes qui vont avoir lieu, les événements plutôt, qui vont avoir lieu le jour de Qiyam. Parce que le surah commence et se répète, chaque début de verset commence par Ida ou alors Waïda. Quand? C'est-à-dire quand on annonce quand on verra, quand telle chose va se produire. Mais par exemple, si je vous dis que quand tu verras ça, quand telle personne viendra, on attend une réponse. C'est-à-dire, c'est qu'on te met en garde, attention, viendra un jour où tu vas voir quelqu'un qui va faire ça, ou une personne va dire telle parole. Et donc là, on attend la réponse. Ben, quand effectivement on va voir le soleil dans cette situation, quand on va voir les étoiles dans cette situation, quand on va voir les mets en train de bouillir, devenir comme du feu, dans ce cas, quelle est la mise en garde? C'est-à-dire des signes qu'on va voir. Allah Azza wa Jalla nous annonce des événements qui vont avoir lieu. Maintenant, on a besoin de savoir, oui, mais quand tout ça aura lieu, ben, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le conseil? Quelle est la grande leçon à retenir? On va dire que c'est la réponse à ces événements, c'est le verset numéro 14. L'objectif, c'est d'arriver jusqu'à ce verset. Mais avant de démarrer, wa idhal maw'udatu su'ilat, j'aimerais vous demander quelles sont les grandes lignes qui nous ont marqué dans At-Takwir, dans Idha Shams Kuwirat. Quels sont les grands messages qu'on a retenus de ces 7 premiers versets de Idha Shams Kuwirat? Bilal.
Quand le soleil sera mis sur lui-même.
Le soleil. Ce que notre frère Bilal a retenu, c'est le soleil. On l'a expliqué, soleil, c'est un astre, astre et étoile, comme on veut bien l'appeler, extraordinaire, magnifique. Bi'idhnillah, grâce à cette créature, la vie est possible sur la terre. Et on connaît la chaleur, l'ampleur du soleil. Le jour de Qiyama, Allah Azza wa Jal va le plier et Allah va le jeter dans le Jahannam. Preuve de la Qudrat d'Allah Azza wa Jal. Quelle autre grande leçon on a à retenir des 7 premiers versets? Si quelqu'un a quelque chose en tête? Al-Bihar ou Sijjirat. Lorsque les mers, c'est quoi la traduction? Et les mers allumées. Et là, on voit encore la Qudrat d'Allah Azza wa Jal. La mer, c'est de l'eau. L'eau ne peut pas prendre feu. Mais le jour de Qiyama, les mers vont s'embraser, devenir comme un feu gigantesque qui couvre, comme on l'a dit, plus de 70% du globe terrestre. Quel autre verset est marquant? Hein? Le verset en arabe, si vous avez. Hein? An-Nujum, les étoiles?
Hein?
Ah oui, le Jahannam, ça prouve la grandeur du Jahannam. Nasallallah al-Afiya, qu'Allah nous en protège. C'est-à-dire, le Jahannam est tellement vaste qu'on peut y déposer le soleil. Bref, effectivement, ça nous donne une idée de la grandeur du Jahannam. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué de ces versets, c'est. Lorsque les chamelles pleines seront négligées. Parce que ça remet en cause, et c'est là-dessus qu'on s'était attardé à juste titre la semaine dernière, ça remet en cause notre conception du dunya, notre attachement avec les biens de ce monde. Et c'est là une réalité. Chaque personne, chaque père de famille, il court derrière un objectif. On veut tous avoir quelque chose, et on voit à travers ce verset que la chamelle pleine qui était ce qui représentait tout ce qu'il y avait de mieux, c'est ce qui avait le plus de valeur pour les Arabes, dit qu'arrivé à ce moment-là, cet animal qui vaut très cher sera négligé, abandonné. Maintenant, nous, comment, à notre époque, on comprend ce verset? Pardon. On doit comprendre que tout ce qui nous est cher, tout ce qui est important à nos yeux, c'est les choses pour lesquelles on travaille, on économise, on se donne à fond. Mais quand arrive la fin des temps, cela n'a plus aucune valeur. Personne ne s'intéresse plus au dunya. On avait donné un exemple la dernière fois. Imaginez, Allah nous protège, un tremblement de terre gigantesque et que le coffre d'une banque explose et tout, il y a de l'argent par terre. Mais vous, en même temps, votre épouse, vos enfants, votre papa, votre maman, ils sont tous sous un immeuble, ensevelis, ils sont tous morts. Est-ce que là, vous allez courir à prendre des billets de 500 euros, vous mettre dans les poches? Ou alors ça n'a plus aucune importance pour vous. Ça n'a plus aucune importance, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'énorme qui vient de se produire. Je viens de perdre ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs, toute ma famille dans ce tremblement de terre, dans ce cataclysme. Donc les choses du dunya n'ont plus aucun intérêt pour moi. À toute échelle respective, le jour de Qiyama, comprenons maintenant que tout ce qui a de la valeur, ben en fait n'a plus aucune valeur. Et c'est là qu'on comprend la métaphore citée dans le hadith que ce dunya n'a pas plus de valeur que l'aile d'une ba'ouda, d'une mouche ou d'un moustique pour Allah Azza wa Jal. Aucune valeur pour Allah Azza wa Jal. Et voyez comment ce dunya est trompeur. Allah nous informe que ce dunya n'a aucune valeur. Allah nous a dit que innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zin. C'est un jeu, c'est des concours pour se dépasser, pour montrer qui est le plus fort, qui a gagné plus, qui a plus d'honneur. Allah Azza wa Jal nous explique et nous met en garde parce que c'est lui qui a créé le dunya. Mais malgré ça, c'est comme si on n'entendait pas le message et on y fonce tête baissée pour essayer de cumuler, d'avoir encore plus, alors que le Coran est clair sur le fait que ce dunya n'a aucun intérêt. Vous savez, pour comprendre, on a du mal à comprendre ces choses parce que on vit dedans. Quand quelqu'un vit dedans, quand quelqu'un, quand c'est la kafives, le 6, quand arrivé le 28 du mois, il n'y a plus grand chose dans le frigidaire, plus grand chose dans le congélateur, et qu'il n'y a plus grand chose dans la poche non plus, depuis ça, c'est depuis un bout de temps, depuis le 15, et qu'il n'y a plus moyen de faire des courses, et que là, comme notre frère, il se gratte la tête, le papa aussi se gratte la tête, se dit, ben, comment on va faire? Là, il faut acheter Minapolo, ça qui sort de Maurice, il coûte 20 roupies. Je ne sais pas que ça, il faut trouver comme solution. Là, celui qui est dans cette situation, il écoute ce discours et dit, oui, mais il est facile, dit ça. Mais quand arrive la fin du mois, vraiment, on se rend compte que l'argent est important. Oui, l'argent est important. C'est pour ça que le juste milieu de notre dîne, c'est quoi? C'est quand le prophète dit, talabu kasbil halal, travailler pour avoir sa subsistance licite, ça fait partie des obligations d'un croyant. Ça fait partie des obligations, entre autres, d'un papa, d'un père de famille. Ça fait partie des obligations d'un mari, d'un homme. Maintenant, la limite, et c'est là le juste milieu, parce que cette religion n'est pas une religion matérialiste où on va honorer ceux qui sont riches. Non. Cette religion n'est pas non plus une religion d'ascétisme, une religion d'ascétisme qui te met à sec, non plus. C'est pas une religion où on te dit de tout abandonner. Si tu as de l'argent, dans ce cas, tu es un hypocrite ou tu es un pécheur. Ah, wallah. Si c'était le cas, comment est-ce qu'on réussit? Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on construit une mosquée? Comment est-ce qu'on fait avancer des projets? Le juste milieu, c'est quoi? C'est qu'on réalise qu'il y a une nécessité d'intégrer un système qui fait tourner les choses. Le système de dunya, les wasa'il, les intermédiaires, les asbab, tout ce qui permet à une personne d'avoir sa subsistance et ainsi de suite. Mais faire en sorte que tout ça reste dans les mains ou dans les poches, mais surtout qu'il n'entre pas dans le cœur. Parce que dans ce cœur, il doit y avoir que Allah Rabbul Izzah. Dans ce cœur, il doit y avoir que notre Seigneur, notre Créateur. Le cœur doit être orienté vers Allah. C'est comme si que ce cœur, il doit être en prosternation en permanence devant Allah Azza wa Jal. Mais c'est pas parce que, là aussi, pas parce que quelqu'un est pieux, qu'il va tout donner, il va tout abandonner, il ne se préoccupera pas de la situation de ses enfants, de sa femme, non. C'est là qu'on voit le juste milieu de notre religion. Sans tafrit et ifrat. En Aqida, on parle de ifrat et tafrit. Exagération ou le terme, ce qui est un terme approprié, on n'exagère pas, mais on n'exagère pas dans les deux sens. Soit on fait trop, soit on fait trop peu. Ne pas déconsidérer non plus le fait de travailler pour avoir sa subsistance et ne pas non plus faire de l'obtention de sa subsistance licite comme la priorité de sa vie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al yadul ulya khayrun min al yadis soufla. La main qui est au-dessus est mieux que la main qui est au-dessous. Le musulman doit être fort. Le musulman doit être autonome. Le musulman doit garder son honneur, sa izza. Le musulman, le croyant, ne tend pas la main. Sauf si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Mais dans la mesure du possible, il ne doit pas attendre que les choses viennent. Il doit aller de l'avant, travailler, s'efforcer pour obtenir son rizq. Et c'est là un engagement qu'il a pris quand il a épousé Fatima, Aïcha, Zainab ou telle femme. Et quand elle a des enfants, ça fait partie maintenant de son rôle de papa, de son rôle de mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah azza wa jal, al-mu'minu al-qawi, ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-da'if wa fi kullin khair. Le croyant qui est fort est plus apprécié, plus aimé par Allah que celui qui est faible. Mais il y a un bien dans les deux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est faible qu'Allah ne l'aime pas, non, mais Allah aime voir le croyant fort qui est capable de surmonter les situations, d'avancer, de porter des choses. Ça, ce n'est pas en contradiction avec le verset de Wa'idha al-Ishar wa'ubtilat. Non. Ça, c'est ce qui est nécessaire. Mais ce qui est nécessaire, encore une fois, on le dit, ça reste dans les mains, ça reste dans les poches, mais ça ne doit pas prendre une place dans le cœur, ça ne doit pas devenir le principal objectif de ma vie, ce qui anime mes intentions. Hada. Donc ça, c'était un verset très fort. Et à chaque fois où on se sent un petit peu éloigné du din, du rappel d'Allah à cause du dunya, je dois me rappeler que tout ce que j'admire, tout ce que j'aimerais posséder, le jour de Qiyamah, ces choses-là n'ont plus aucune valeur. Et comme l'a dit la dernière fois, parfois il suffit d'une épreuve aussi pour qu'on se rende compte que cela ne nous apporte strictement rien. Vous avez dit, et moi le deuxième verset qui m'a interpellé, c'est on avait expliqué que les gens seront ressuscités en fonction de leur catégorie, en fonction de leur niveau. Quel niveau hein, social? Non. RMIS, RMIS, SMICA, SMICA, ben STA, t'es là-bas, ben RSA, l'autre côté, et ben patron, je suis parachute doré, tout ça, là, wallah. En fonction de leur niveau de iman, en fonction du niveau des a'mal qu'ils avaient avec eux. D'où le verset, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Il y a des gens qui, le jour de Qiyamah, seront avec les prophètes, les véridiques, ceux qui sont morts dans le chemin d'Allah, et les salihin, les vertueux. Et ça, c'est le plus grand honneur, d'être ressuscité avec les meilleurs des hommes, avec les gens qui étaient les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on réalise bien que le jour de Qiyamah, je serai avec les gens que j'aimais, les gens que j'imitais, et je serai avec les gens qui sont de mon niveau en termes de iman. Ce qui veut dire également qu'il y a une relation de cause à effet. Il est telle sera la situation, mais je ne suis pas, c'est pas que je suis obligé d'être parmi les péchés endurcis. Si je suis ressuscité avec les péchés endurcis, c'est que j'ai fait les actions qui vont me mener vers ce groupe. D'où l'importance de prendre les décisions maintenant dans ce dunya. À moi de prendre les décisions concernant l'orientation que je vais donner à ma vie. Est-ce que je vais choisir une vie de droiture? Avec l'accomplissement de mes 5 prières régulièrement, avec le respect de mes parents, avec le respect de ma famille, avec un comportement digne d'un musulman, ne pas faire de zulm, ne pas embêter les gens, ne pas faire de riba, buhtan, et ainsi de suite. Bref, avoir une vie de droit, tu es de sirat al-mustaqim, et avec à la base une tawhid, l'unicité d'Allah, imprégnée dans le cœur de la façon la plus authentique, la plus pure possible. Donc, c'est moi qui choisis. Et c'est tous les jours que je choisis. C'est au quotidien, c'est parfois plusieurs fois par jour que je choisis ma destination de l'au-delà. En fonction des situations, des fitnas qui existent dans la vie de tous les jours. Et nous savons que plus le temps passe jusqu'à l'arrivée de Ad-Dajjal, il y aura de plus en plus de fitnas. Et le plus gros fitna qui va couronner tout ça, c'est l'antéchrist, c'est Ad-Dajjal. Donc dans toutes les situations de ma vie, mes chers frères, et ça c'est un message d'une grande importance, quand j'ai à faire face à une situation où j'ai le choix entre le bien et le mal, je dois réaliser qu'à ce moment-là, Allah Azza wa Jal est en train de m'observer. Quand j'ai le choix entre le bien et le mal, pas que j'ai fait un péché par inadvertance, par erreur, là je me rattrape, c'était une erreur on a dit, d'accord, mais là où on a une possibilité, on a un choix à faire, et que je choisis de désobéir à Allah Azza wa Jal. À ce moment précis, je dois être conscient qu'Allah est en train de m'observer. Je donnerai un exemple. Quand, par exemple, j'ai mon père ou ma mère, mes parents, qui me font une remarque, qui peut être une reproche aussi, il n'y a pas de mal. Si ça vient d'eux, ils ont tout à fait raison. et que j'écoutais leurs remontrances silencieusement et que je réfléchis à ce que je vais dire, à ce que je vais répondre. Là, je suis en train de choisir entre le bien et le mal. Si je décide de choisir le chemin de la fierté, l'orgueil, l'affirmation de soi, montrer que je suis un homme maintenant, que donc je prends mes décisions, je ne suis plus un petit qui suit les parents, et que je dis ce que j'ai envie de dire, quitte à ce qu'il soit vexé ou à faire couler les larmes de mes parents. Là, je me suis enterré. Là, je me suis détruit. C'est pire qu'une personne qui se tire une balle dans la tête ou dans le pied ou autre chose. Là, j'ai choisi d'être ressuscité avec les pécheurs, avec ceux qui ont désobéi, ceux qui se caractérisaient par certains péchés qui provoquaient la colère, le mécontentement d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, si je prends mon mal en patience, je fais abstraction de mon envie de m'affirmer et je me dis que ça, c'est mes parents et que le premier ordre après l'unicité d'Allah, c'est l'obéissance, birr. C'est plus que l'obéissance, le mot birr. C'est être proche, bienfaisant, respectueux et obéissant envers les parents. Donc je considère ça. Je me dis que même si j'ai raison, et qu'eux, ils ont tort parce qu'ils n'ont pas compris, ils sont âgés, ils sont fatigués ou autre chose, je me dis que je vais me rabaisser devant eux par amour pour Allah et ensuite par amour pour mes parents. Et parce que c'est mon devoir. Alors là, j'ai choisi le droit chemin. Là, mashallah, c'est comme si que je dessine mon destin de l'au-delà de la meilleure des façons. Et de l'autre cas, je dessine mon destin de la pire des façons. Ça, c'est la relation entre les actes et le taqdir. C'est pas que si je suis ressuscité avec, qu'Allah nous protège avec des pécheurs, c'est que c'était mon destin. Non. C'est le destin final. C'est ce qu'Allah savait par rapport au choix que tu allais prendre. Dans toutes les situations de la vie, à chaque fois, tu prends le chemin à gauche. Et le ilm d'Allah, la connaissance d'Allah, elle dépasse les frontières, elle dépasse le temps, elle dépasse tout. Allah, il sait pertinemment quel aura été mes choix durant toute ma vie, alors qu'il me laisse le choix. C'est comme si qu'on a les dés en main, on décide ce qu'on veut faire, mais Allah, il savait quelle aura été ma décision. Ça, c'est la petite complexité du destin, mais ce qui est nécessaire d'intégrer pour réaliser que c'est moi qui décide. Je prends les décisions, donc attention de ne pas me tirer une balle dans le pied en faisant le mauvais choix, en choisissant le mauvais chemin dans toutes les situations de la vie. Là, on a pris un exemple quand même assez soft, parce que c'est rare quand même de voir quelqu'un qui va répondre ou dire des choses méchantes à ses parents. Mais après, il y a des exemples qui sont un peu plus perfides, un peu plus perverses. Ça peut démarrer d'un petit regard, un petit clin d'œil avec ma secrétaire, ou alors mon collègue de bureau, cette jolie jeune fille, ou cette jeune stagiaire qui vient d'arriver, Cogemo par exemple, je ne sais pas, jeune stagiaire qui vient, là, il y a six en face, l'adrénaline, il monte, je ne sais pas quoi c'est encore, toutes affaires. Donc là, il suffit, c'est parfois ce petit regard qui peut être mon épreuve. Ou alors, ça peut être une épreuve plus importante et plus pernicieuse. Ça peut être vraiment le zina, ça peut être autre chose. Ça peut être, en fonction des faiblesses de chacun, ça peut être une fitna, une épreuve en rapport avec l'argent aussi. Ce que j'utilise, cet argent qui est haram, ou je n'utilise pas, et ainsi de suite. Chacun y connaît. Ça peut être le dernier Justin Bieber qui vient de sortir, le dernier Justin Bieber qui vient de sortir, et que je l'ai là, je peux cliquer sur le bouton, télécharger et l'écouter. Et là, j'ai un choix. Soit je vais écouter ce que j'ai envie de faire, ou alors je me dis qu'Allah Rabbul Izza au-dessus de moi, Allah m'observe, Allah me regarde, Allah entend, Allah connaît mes choix. Et si j'abandonne ce qui est mauvais pour Allah, Allah me fera goûter la douceur de la foi. Et Allah ordonnera aux anges d'inscrire une bonne action à la place du péché que j'ai abandonné volontairement. Donc comprenons, mes chers frères, la portée de ce verset Waidan Nufusuzu Widjet, qu'on réalise que en fonction de mes choix, je décide avec qui je vais être ressuscité le jour de Qiyam. Alors aujourd'hui, ce soir, on va faire, après ce petit rappel de 19 minutes, non, on fait jusqu'à 30 minutes. D'accord? Donc encore 10 minutes, parce que Salat al-Isha est tard, au moins chacun peut rentrer. Et on ne donne pas taklif également à nos frères qui ferment la masjid, qu'Allah leur accorde grandement récompense de ce dunya et dans l'au-delà. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Al-maw'udatu, c'est la fillette, petite fille. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Alors ça correspond à quoi ça, cette histoire de petite fille enterrée vivante? Vous savez que avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu la période d'ignorance. Comment ça s'appelait? Comment ça s'appelle ça en arabe? Jahiliya. À l'époque de la Jahiliya, il y avait des choses qui se passaient que même à notre époque on ne retrouve pas. Les gens vivaient dans un tel degré de barbarie, parfois, certains plans, que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer en termes de bassesse connue par des civilisations ou des peuples. Et les Arabes, déjà avant de parler de leurs actes de barbarie, la plus grande injustice qu'ils faisaient, c'était quoi? Vouer le culte à autre qu'Allah. Le polythéisme, adoration d'idoles, de asnam, de statuettes et ainsi de suite. Selon certaines sources, il y avait plus de 360 idoles autour de la Kaaba. Donc c'était déjà le plus grand zulm d'adorer autre qu'Allah. Alors que ces Arabes, ils savaient que le Créateur c'est Allah. Il n'y avait personne qui doutait parmi les Arabes que le Khaliq, que le Créateur c'est Allah. Amman khalaqa as-samawati wal arda. Tous ces versets qui commencent par Amman et A ilahum ma'Allah et ainsi de suite. Ces Arabes, ils savaient que le Créateur c'est Allah. Mais ils vouaient le culte à d'autres divinités pour les rapprocher d'Allah, et Shaitan les avait embarqués dans une sale affaire. Il les avait détournés du droit chemin, comme il avait fait pour le peuple de Nuh alayhi salam, avec l'histoire qu'on connaît, qu'on avait déjà expliqué avant. Et donc ça, c'était le plus grand zulm, déjà le plus grand péché que les Arabes accomplissaient. Et en plus de ça, vous savez, quand quelqu'un fait le shirk, est-ce qu'il y a la lumière ou il y a l'obscurité? Volumat, c'est l'obscurité. Et quand l'obscurité se referme sur un cœur, et là ça va plus loin que la notion de point noir et tout, hein, c'est là le volumat, c'est l'obscurité du shirk, ben cela va rejaillir sur la personnalité de cet individu. Et ça explique pourquoi il faisait des choses inimaginables. Quand une maman accouchait d'un bébé, vous savez, à l'époque, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si c'était un garçon ou une fille. Si c'était une fille, pour les Arabes, c'était dhilla, c'était un déshonneur, c'était une honte. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Certains Arabes, on ne va pas dire tous, certains Arabes, ils enterraient la fille vivante. Et certains le faisaient quand la fille était encore bébé, et d'autres, ils attendaient quelques années quand elle commence à être un peu clairvoyante, elle commence à raisonner, 4 ans, 5 ans. Et il y a à ce propos un récit, j'avais cru lire que cela concernait Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, mais il nécessite une petite recherche dans l'authenticité de la chaîne de narration. L'histoire est authentique, mais juste à voir, est-ce que ça concerne Umar ou une autre personne? Si on considère que c'est Umar, c'était la dernière version que j'avais entendue. Il disait que il y a deux choses qu'il repense souvent, qu'il faisait dans la Jahiliya, qui s'était passé dans la période de l'ignorance. Il y a une chose qui le fait rire et il y a une chose qui l'attriste. On avait dit la dernière fois ça? On avait expliqué tout? Ah bon, il est fatigué. La chose qui l'amusait, qui le faisait sourire, c'est l'histoire de le petit idole qu'il a fait avec le pain, enfin bref. Et ce qui le faisait pleurer, c'est l'histoire de sa petite fille qu'il avait enterrée et que la fille jouait, hein, avec enlever la terre de la barbe de son papa en pensant que le papa est en train de jouer avec elle, et il l'a enterrée vivante. Et il s'est dit, comment est-ce que j'ai pu faire comment est-ce qu'on a pu faire de tels péchés dans la période de Jahiliya, dans la période de l'ignorance? Et les savants disent, voyez, subhanallah, combien de maouda, combien de petites filles comme ça ont été enterrées vivantes dans la période de la Jahiliya, de l'ignorance. Maintenant, voyez, ces mêmes personnes qui étaient dans l'obscurité totale, il a suffi que on branche leur cœur sur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, pour que en je ne vais pas dire en quelques années, immédiatement. C'est comme si vous êtes dans une pièce obscure, il fait noir, et que tout d'un coup, vous allumez le fusible, vous remontez le fusible, et que khalas, toute la lumière revient. En un instant, quand la lumière du iman a pénétré leur cœur, ça a rejailli sur le corps en entier, sur le akhlaq, sur le comportement. Ils sont devenus les meilleurs des hommes. Les gens qui dans ce dunya avaient le meilleur des comportements. Et voyez ce comportement, comment il était noble et profond en termes d'humanisme, de fraternité, de solidarité, alors qu'avant ils s'entretuaient. Chez les Arabes, à Makkah et dans les attributs, c'était des guerres en permanence. À Madina, c'était des guerres entre les Haus et les Khazraj, entre les tribus. On pouvait déclarer une guerre pour un truc banal. Même parfois ici, vous voyez, dans les fêtes d'hiver, le Bogat a son sable parce que la garde est de travers. Oui, il y a garde moins de travers, mais pas de travers mon sable. Comme si c'est tout à fait logique, c'est légitime regard en travers, d'accord ? Légitime défense parce qu'il a regard en travers. Chez les Arabes, c'était comme ça. Et quand le iman est entré de leur cœur, ils sont devenus les meilleurs des hommes et ils ont donné une leçon impressionnante à l'humanité qui n'a jamais été égalée et qui ne sera certainement jamais égalée. La leçon de fraternité en islam, lorsque le prophète est arrivé à Madina, le mu'ahat, où chaque muhajir devenait le frère d'un ansar, chaque habitant de Makka qui venait d'émigrer, d'arriver à Madina, devenait le frère d'un médinite, d'un habitant de Madina, et vraiment frère pour pouvoir partager tout ce qu'ils avaient pour permettre à son prochain de ne pas vivre des situations difficiles, de s'en sortir et d'avoir certains izzah, d'avoir une certaine dignité pour vivre normalement dans de la société. Et ça c'est la beauté de notre din. Ça c'est la magie, on pourrait même dire, la lumière qu'il y a de cette religion. Si cette religion était capable de changer les pires des hommes en meilleurs des hommes, quand le prophète dit que mes compagnons sont comme des étoiles, d'accord ? Maintenant on voit qu'au quotidien, des personnes qui étaient dans le mauvais chemin, qui faisait tel péché, des drogués, des gens qui faisaient je ne sais pas quoi. Alors, parfois même en prison, ils lisent la shahada et ils deviennent, mashallah, des gens corrects dans le droit chemin. Et on voit parfois, subhanallah, il y avait un islamophobe professionnel, on va dire, qui avait, un Hollandais je crois, qui avait écrit un livre, où il avait fait un film contre l'islam. Allah l'a donné la guidée. J'allais dire comment, je ne sais pas, je n'ai même pas le droit de dire ça. Allah il fait comme il veut. Il a eu la hidayah, et il y avait des photos qui circulaient, et son interview, il est parti faire la umrah. Il a accepté l'islam, et on voit sa photo devant la Kaaba, il a été reçu par Imam Haramain, par les dignités et tout, et il explique quelle était sa haine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu akbar, avant, dans sa jahiliya à lui, dans sa période d'ignorance. Il a dit que quand je me suis présenté devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de mon voyage là-bas à Madina, il a dit ce qu'il a ressenti, c'était quelque chose d'extraordinaire. Autant il a fait un film pour détruire l'islam, pour essayer de détruire l'islam, et quelques temps après Allah le choisit pour avoir l'iman, pour faire le tawaf de Baytullah et d'être devant un nabi alayhi abdallah wa atammu taslim. Il ressent cette lumière extraordinaire, il ressent ce iman qui remonte dans son cœur, hein, qui, subhanallah, qui l'agite. Et il ressent cet amour que chaque croyant doit avoir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait été le pire des ennemis de l'islam. Il n'y a pas besoin d'aller très loin qu'on voit Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Quelle était sa vie avant l'islam? Dans certaines sources, on disait qu'il avait l'intention de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète avait demandé, oh Allah, renforce le din par une de ces deux personnes, soit Umar, soit. C'était qui l'autre? Abu Jahl, d'accord? Et Allah Azza wa Jalla a choisi Umar. Et en un instant, il change d'objectif. Il va voir le prophète, il dit là, Shahada, il devient un pilier dans la communauté musulmane à Makkatul Mukarrama. Donc quand on parle de Waïd al-Maw'oudatou, on se rend compte réellement qu'est-ce qui se passait avant et comment l'islam les a changés pour qu'ils deviennent les meilleurs parmi les êtres humains. Hada. Et là, on voit également, petite parenthèse, regardez les droits que l'islam a donné à la femme. La protection de la femme à tous les niveaux. Depuis qu'elle est bébé, une petite bébé-fille, depuis qu'elle est une fillette, elle est toute petite, jusqu'à ce qu'elle va grandir. Comment est-ce que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un hadith magnifique que celui qui a deux filles et qui leur donne une éducation correcte jusqu'à ce qu'elles deviennent matures et grandes et dans le commentaire, les muhadithim disent que jusqu'à ce qu'elle se marie elle-même elle, avec des hommes pieux, des gens pieux, d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est ce père, ce papa, on ne parle pas des filles, hein, ce papa se rapproche de moi comme deux doigts le jour de Qiyama. Alors, bonne nouvelle, qui c'est qui a au moins deux filles? Levez la main que je vois. Masha'Allah, Bushra, bonne nouvelle. Mais, bonne éducation, n'est-ce pas? Zot coup à droite, à gauche, monter, descendre, virer, tourner. Une éducation correcte, d'accord? Sans non plus les emprisonner, mais une éducation correcte, donner de bonnes valeurs, une bonne tarbiya. Faire en sorte que on les enseigne l'islam, on enseigne la pudeur, on enseigne la morale, l'éthique de la musulmane, la personnalité de la femme musulmane, jusqu'à ce que, mashallah, elle reçoive une demande en mariage d'un jeune qui a les qualités de iman, sifa de iman, ça, s'il peut être hafiz al-Qur'an, et ainsi de suite, mashallah, et que, alhamdulillah, ma fille se marie, et qu'elle est heureuse, elle a un foyer épanoui, et que elle et son mari, mashallah, ils vont vers la spiritualité, recherche le contentement d'Allah, je suis un père comblé. Et si c'est le cas pour deux de mes filles, j'ai la garantie, la promesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera proche de moi le jour de Qiyam. Voyez comment l'islam a protégé la femme et a incité les parents à s'occuper de la meilleure des façons possibles de leur fille avant que, avant l'islam, voyez quelle était la situation. À l'époque des Jahiliya, l'ignorance, la femme, est-ce qu'elle héritait? Elle n'avait pas sa part d'héritage. Et si je ne me trompe pas, rectifiez-moi si quelqu'un le connaît, avant la prise de la Bastille et tout ça là, à l'époque où il y avait la noblesse, le clergé, tiers état, les sans culottes, les sans papiers et tout ça, à cette époque, la femme n'héritait pas non plus, si je ne me trompe pas. La femme n'héritait pas, et dans une famille, s'il y avait une fratrie de 4 ou 5 garçons, c'était le premier qui héritait. C'est des vieux souvenirs de quoi d'histoire. C'était le plus grand qui héritait afin que la fortune ne soit pas trop dispersée, dispatchée, pour garder le capital, la famille. Bref, c'est autre chose. Il y a que la femme, après combien de temps, elle a eu droit à l'héritage. Alors que quand le prophète Sazam a commencé la Risala, est devenu prophète, la femme a eu ses droits. Il y a également, regardez, quand est-ce que la femme a eu le droit de vote en France? Pardon, 1900? Après la deuxième guerre alors. Après la deuxième guerre mondiale, la voix VOX de la femme compte de manière officielle après la seconde guerre mondiale. Dites-moi, le premier mashwara que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en tant que prophète, c'était avec qui? Khadija radiallahu anha. Quand l'ange Jibril est venu, c'est là que le prophète est devenu prophète, à l'âge de 40 ans, d'accord, ce point wahi. Il n'est pas parti consulter Abu Talib ou alors consulter les Zouama ou des chefs de tribus de Quraysh qu'il appréciait énormément, qu'il l'aimait, qu'il le considérait, le portait sur leurs épaules. Il va voir Khadija parce que c'est sa femme, parce qu'il l'aime plus que tout au monde et il sait que son opinion, ça compte. Reconnaissance officielle de Ra'y, l'opinion de la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné, l'a montré que c'est elle qui comptait. Et ainsi de suite, comment subhanallah notre din a rétabli l'équilibre, tout ce qu'il y avait comme manquement à l'époque du Jahiliya, comment notre islam a donné les droits aux femmes, tant, depuis qu'elle est petite, en tant petite, qu'elle devient une fille, une grande fille, qu'elle devient mariée, qu'elle soit maman, qu'elle soit une sœur, et ainsi de suite. Et la femme a droit à l'héritage, et ainsi de suite. Allah musta'an. Maintenant qu'on entend des gens qui disent, oui, pourquoi dans l'islam, la femme, elle a droit à la moitié de la part d'un homme, ça c'est une religion injuste, misogyne, et qui met de côté les droits des femmes. Et regardez maintenant, il n'y a pas d'exagération non plus. Voyez la cohérence qu'il y a de la religion. Quand on a Ar-Rijal Qawwamuna 'ala An-Nisa, que Allah Azza wa Jalla a accordé, en ce sens, un rang, un manzila supérieur à l'homme, parce qu'Allah Azza wa Jal a fixé, a donné des obligations à l'homme que la femme n'a pas. An-nafaqa, la maison, le toit, la subsistance, acheter à manger, etc., etc. C'est pas à la femme de le faire, c'est uniquement au mari. C'est pour ça que l'équilibre, c'est que comme c'est le mari qui doit entretenir toute la famille, la femme et les enfants, c'est pour ça que sa part de l'héritage était et plus importante. Il y a toute une cohérence dans les règles qu'Allah Azza wa Jal a fixées dans le Wahy. Donc on pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, Inch'Allah. Donc on demandera, et là c'est pas une question qu'on pose à cette fillette, à ces fillettes, qu'est-ce que tu as fait? On appelle ça en arabe, je sais pas, j'ai pas le terme qui me revient, su'al taubir, c'est presque comme une question ironique, d'accord? Demandera à la petite fille, pourquoi tu as été tuée? Pour qu'elle dise qu'elle n'a rien fait, pour mettre plus en avant le crime de ces personnes injustes. Le crime de ces personnes injustes, qu'on fera parler à la petite fille, quel péché tu as fait quand tu étais bébé, pour qu'on t'enterre vivante. Et là, on va voir qu'il n'y a aucun péché, pour que la personne qui a fait ce péché soit encore plus humiliée devant le mahshar, le jour de Qiyama. On va s'arrêter à là pour ce soir, Inch'Allah. Prochaine fois, un verset d'une grande importance. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, d'accord, les livrets qui seront déployés, et le ciel, وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, le ciel écorché, et le paradis, et l'enfer et le paradis qui seront préparés, et ensuite on aura la réponse, qu'est-ce qui se passe quand toutes ces choses auront lieu. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs qui sont à la maison, Inch'Allah. Et n'oublie pas, notre rendez-vous, c'est demain, Salat al-Fajr à 5h. 5h, ici 5h en congrégation. Tous ces discours, c'est bien, mais l'essentiel, c'est la pratique. Si j'écoute et après le reste, je me dis, ben c'est pas grave, là ça va plus du tout. Le but, c'est avant tout de raffermir les relations avec Allah par le biais de ce qu'il a rendu obligatoire. Et c'est la meilleure façon de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, comme le dit le hadith Qudsi. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. 36 minutes, la limite est atteinte. Subhanallah, bihamdihi, subhanakallah, wa bihamdika. Notre frère arrive maintenant, tu as la récompense du majlis parce que le niyyah est sincère. Et ça, c'est la grande beauté de notre dîn. Quelqu'un a l'intention de faire une bonne action, Allah Azza wa Jal lui a déjà accordé la récompense. Et s'il le fait, Allah Azza wa Jal ordonne aux anges d'inscrire au minimum 10 fois. Notre frère est arrivé au dernier mot. Il a eu l'intégralité, Inch'Allah, des récompenses, des thawab, des hasanat qu'il y a de le majlis. Qu'Allah nous accepte. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillah.